Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction du S-Racing pour parler d'IndyCar, puisque oui, il y a de l'IndyCar cette semaine avec la finale la plus tardive depuis 2007, donc c'est-à-dire de l'histoire pour certains dans Splash and Go. Il y a Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour Aloïs et bonjour à tous.
Et il y a Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy, bonjour Lilian et bonjour à tout le monde.
Rassurez-vous, on ne va pas parler que d'IndyCar, bien que ce soit pratiquement l'actualité de la semaine. Hein. On va aussi parler un petit peu de NASCAR. On a deux, trois choses à dire, notamment concernant un certain Kyle L. Et puis aussi deux, trois transferts.
Dans l'écurie H.
Ouais, c'est ça, dans l'écurie H. Ouais. On commence tout de suite avec l'IndyCar, Lilian, puisque l'IndyCar est à Saint-Pétersbourg, non pas pour la manche d'ouverture de la saison 2020, comme cela était le cas il y a 7 mois, oui c'est ça, 7 mois.
Ah oui, c'était le cas initialement.
Mais on a retourné le calendrier et l'ouverture de saison est devenue la finale.
Bon, on pourrait presque dire que c'est l'ouverture de saison, vu le nombre de mois qui sépare la prochaine saison. Ça reste dans les habitudes de l'IndyCar.
Non, d'habitude, l'intersaison est 2 mois plus longue. Donc non, là, c'est, je te dis, c'est la finale la plus tard dans le calendrier depuis 2007. Et je crois que c'était le kart à l'époque quand il allait du côté de la Gold Coast en Australie. Et la finale avait eu lieu dans le courant du mois de novembre.
Ah oui, c'était du temps de la scission entre les deux encore, ouais.
C'est encore du temps de la scission, ouais.
Parce que j'allais dire 2007 en IndyCar, c'était Chicagoland.
Ouais, c'est ça.
Avec ses, ouais, je me rappelle.
Donc oui, avec ses 4 monoplaces de front. Donc voilà, faut remonter à 2007 pour avoir une finale aussi tardive. Ça fait quand même très très tard. Mais bon, cela dit, cette année, on n'a pas eu trop le choix au niveau du calendrier. Il a fallu faire des micmacs.
C'est déjà bien qu'on aille ailleurs qu'Indianapolis, écoute.
C'est ce que j'allais dire.
Réjouissons-nous, profitons-en.
En fait, on a réussi à sauver Saint-Pit.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est un petit peu l'idée. Alors, je vais vous donner les horaires tout de suite, comme ça, ce sera évacué. C'est un programme sur 2 jours, samedi, dimanche, avec une seule séance d'essai le samedi, puis les qualifications. Le dimanche, un petit warm-up de 30 minutes et la course qui est à 14h27. Donc, ce qui fera, 14h27, c'est le Driver Station Engines. Le drapeau vert est à 14h32. Donc, ce qui fera du 19h32 en France. Messieurs, c'est la finale. On le sait, ça va se jouer entre Scott Dixon et Joseph Newgarden, Aloïs. Avantage Scott Dixon. Mais sur la fin de saison, on a quand même vu un Newgarden qui remonte, qui grappille. Il n'y a plus que 24 points d'écart de mémoire entre les deux. Avantage à qui, selon toi ?
Moi, j'ai plutôt 32 points de différence entre les...
32, non, bah, c'est peut-être mes yeux qui ont fourché. C'est peut-être 32.
Mais 24 ou 32, de toute manière, effectivement, Scott Dixon a l'avantage d'un point de vue comptable, mais je dirais tout de même que Joseph Newgarden a l'avantage côté moral, côté psychologique. Parce qu'il reste quand même sur de très bons résultats dernièrement, une victoire sur la première manche à Indianapolis. Et ça n'a pas fait moins bien que 8e depuis la seconde course de Gateway, donc sa deuxième victoire de la saison. Alors que Scott Dixon n'a pas fait mieux que 8e depuis cette fameuse course de Gateway. Il a fait 5e à Gateway et depuis c'est 10, 10, 9, 8.
Et c'est bien 32 points d'écart, hein, t'avais bien vu.
C'est bien 32 points d'écart, et au final, 32 points d'écart, ça peut se couvrir relativement rapidement. Il suffit de pas grand-chose pour que la balance s'inverse. Ceci dit, est-ce que Dixon va-t-il perdre ce titre qui lui tend les bras depuis, on va dire quoi, les premières courses, où il a enchaîné 3 victoires de suite?
Bah, il est premier du championnat
pour
depuis
pas
le
créer
début.
victoire trop tôt.
C'est ça. Il est très très bien parti. Et le titre qu'on lui promettait pratiquement au soir d'Indianapolis, hein, globalement.
Va-t-il nous faire une
Allez.
Marco Andretti? Va-t-il mener jusqu'à l'amorce du dernier virage et puis tout perdre?
Non, je ne pense pas. Enfin,
Vu l'expérience, ça serait quand même étonnant.
ouais, c'est ça.
Mais on l'a quand même signalé lors des dernières courses, il nous a quand même fait des petites boulettes, notamment à Mid-Ohio, hein, réputé pour être son jardin, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais il a quand même fait une belle boulette là-bas, chose qu'on est quand même très, comment dire, chose très peu fréquente chez Scott Dixon. Il avait refait une boulette, je sais plus où. Mais voilà, après c'est un petit bémol qu'on peut mettre à Scott Dixon. Sinon, je pense que clairement à l'expérience, ça va le faire, quoi.
Ceci dit, je suis en train de regarder un peu plus en profondeur les stats de Scott Dixon. Il n'a pas mené de tour depuis sa dernière victoire, donc sur la première manche du Gateway. Il a mené zéro tour sur la seconde course. Idem à Mid-Ohio et à Indianapolis pour chaque doubleheader. Donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'était pas en première place d'une course.
Ouais, ça fait que 5 courses, hein.
5 courses sur 13, c'est presque la moitié, hein.
Oui, c'est vrai, mais en fait, ça fait que 2 semaines. Hein. Ça fait que 2 week-ends de course. Complet.
Complet. Bon, en tout cas, on aime un petit peu jouer l'avocat du diable, mais Scott Dixon part avec une large longueur d'avance sur Joseph Newgarden si on regarde d'un point de vue strictement mathématique.
Voilà, ok. Eh ben on va s'arrêter là-dessus sur ces tergiversations du championnat, messieurs, puisque de toute façon, on ne peut guère donner autre chose comme information. Les autres pilotes sont trop loin. Et enfin, trouver un enjeu pour la 8e place entre Simon Pagenaud et Alexander Rossi, on va peut-être éviter. Hein. Même s'ils ne sont séparés que 6 points.
On essaye de trouver l'intérêt là où on peut.
C'est ça. On notera quand même qu'il y aura encore une fois Sébastien Bourdais pour la finale de la saison, et qu'il enchaînera de toute façon l'année prochaine avec l'écurie des Jeff Hoyt. Donc voilà, on a Sébastien Bourdais qui sera là, ça fera 2 Français et puis bah une finale atypique puisque ça faisait quand même quelques années maintenant du côté de l'IndyCar. Qu'on terminait en Californie, que ce soit du côté de Fontana, de Sonoma ou de Laguna Seca.
On va là où il fait beau.
On va là où il fait beau, on va là où on peut aussi sanitairement, parce que je pense que l'IndyCar n'avait pas envie de refaire un calendrier pour la 78e fois de la saison.
Et du coup, est-ce qu'on aura des fans dans les tribunes pour la finale de Saint-Pétersbourg?
En fait, comme Saint-Pete, c'est en ville, c'est possible en fait que les tribunes, ce soit les balcons des gens.
C'est possible, à moins qu'ils ne soient pas intéressés par de l'IndyCar, ce qui est fort possible, sachant qu'on se trouve en Floride.
Le monde ne s'appelle pas Aloïs non plus.
Ou l'Union.
C'est vrai. Bah écoute, on verra. Pour l'instant, pas d'infos supplémentaires sur la présence de public, mais il me semble que j'avais vu que le public était autorisé en quantité limitée, enfin en nombre limité, pardon, une quantité de public, ça veut
Ouais,
rien dire.
ça fait un
Enfin,
peu
ça fait.
limite quantité, c'est du bétail, quoi.
C'est pas faux. Donc en nombre limité, pardon. Autant pour moi, public floridien. Allez Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Alors, mon j'aime, c'était bien la course d'IRL au Kansas.
Pas mal, pas mal, pas mal. J'approuve ceci dit, j'approuve.
Et bon, j'aime pas, bah, c'est dans mon boulot, quand il y a des changements qui se font sans être prévenu et puis que je paye des gars, rien, c'est très bien.
Ok, c'est moche.
Ouais.
Aloïs.
Eh bien, mon j'aime, ce sera ma petite sortie cycliste du dimanche après-midi sous le soleil dans les monts du Lyonnais. C'était fort agréable, je me suis bien fait kiffer dans les descentes. C'était tip top. On a profité du beau temps pendant que le soleil pointait le bout de son nez, parce que là, ça paraît un peu compliqué pour le reste de l'année.
Et ça va, t'as réussi à éviter les motos?
J'ai réussi à éviter les motos, oui. J'ai failli me prendre une voiture, mais.
C'était la connasse en Opel, ça.
Presque. Je sais plus ce que c'était comme caisse, mais c'était peut-être une Opel d'ailleurs, pendant que tu en parles.
On a fait de la pub pour Opel. Hein. Allez hop.
Il devrait nous sponsoriser le podcast. Hein.
et ton j'aime pas.
Et mon j'aime pas. Lilian me l'a un peu piqué avec la course d'IRL au Kansas, puisque c'était vraiment de la merde. Mais.
De toute façon, t'as vu, après tu répondais plus aux messages sur le groupe.
Bah, en fait, je crois qu'il voulait regarder.
Je me suis dit, soit il est parti se coucher, il a rien dit, ou il s'est endormi devant sa télé.
Si j'étais en train de somnoler, pour être honnête, mais j'ai juste regardé la fin en mode avec un seul œil pour éviter de me taper le replay le lendemain. Parce que j'avais pas la force de voir le replay d'une course aussi pourrie.
Pour que tu sois au courant de ce qu'on va parler dans 10 minutes.
Ah mince! Ah, c'est pas ce que j'avais! Oups! Mais j'aime pas, ouais, j'en sais rien, franchement. Ouais, je vais rester sur j'aime pas cette course de Kansas. Au final, je crois avoir défendu la course de Kansas qui devait disparaître du calendrier il y a quelques semaines. Je retire mes propos.
Ouais, effectivement. Allez, je commence avec mon j'aime pas, histoire de rester. Dans le monde du sport automobile, mais figurez-vous quand même que ce week-end, messieurs, il y avait deux des plus grandes courses de la saison, deux des courses les plus importantes. Alors non, je ne parle pas du Kansas et du Kansas. On avait du côté de Road Atlanta, on avait le Petit Le Mans, et en Australie, on avait Bathurst, les 1000 km. Deux courses bien sympathiques qui tombent le même week-end. Alors déjà, c'est dommage. Et puis, enfin... C'est la nostalgie du bon temps avec LFB et Patrick Rivet aux commentaires sur Motors. Et je dois avouer que ça manque un petit peu, même si les commentaires australiens, notamment pour Bathurst, étaient de très bonnes factures comme tous les ans. Et mon j'aime, messieurs, ça aurait dû être l'ouverture de la saison de blanc, mais non, on va rester dans le sport auto. C'est le très probable retour d'un numéro emblématique à la Hendrick, puisque le 88, faut quand même pas déconner, n'a juste aucune histoire. Je vais me faire des amis, je le sais. Mais c'est le probable retour du numéro 5, hein, qui est quand même l'un des numéros emblématiques de la Hendrick, et c'est une très bonne chose à mon sens.
Ah, c'est notre fil rouge de fin de saison. Hein,
ouais, ça fait des semaines que ça traîne, ça.
Et Kyle.
Notre fil rouge de fin de saison depuis la mi-avril, c'est ça? C'est
pas loin.
C'est un peu plus que fin de saison, quand même. Hein, c'est...
Bah là, toutes les lumières sont ouvertes. Hein, et en bonne place, il ne reste plus que celle-là pour voir. Donc,
C'est ça. Mais calme-toi, on n'a pas encore commencé la partie NASCAR. Calme-toi.
Allez, vas-y, lance ton générique.
Allez, Lilian, tu veux parler de NASCAR? On va en parler, bien évidemment. Alors, j'ai bien
de la NASCAR. Hein.
J'ai bien compris que le Kansas, ça vous a fait chier. Donc, on va...
En fait, c'est pas le Kansas, c'est le package aéro qui va pas, encore une fois.
Je sais pas si c'est le package aéro, je sais pas. Honnêtement, on va évacuer le sujet. C'est Logano qui gagne devant Harvick, Bowman, Keselowski, Kyle Busch, Chase Elliott, Blaney, Byron, Truex et Christopher Bell pour le top 10. Voilà, vous avez le condensé. On va plutôt s'intéresser, je pense, aux faits marquants de la course, puisqu'il y en a quand même eu deux. Ah, bah, il y en a quand même eu deux ou trois. Après, je sais que ça, c'est quand tu fermais un œil et que tu reposais l'autre. Donc, forcément, tu les...
Non, quand je dis ça, c'est assez ironique parce que tous les médias tournent en boucle, je pense, sur le fait majeur que tu veux mettre en avant.
Eh bah, écoute, le fait majeur, c'est quand même le barbecue de Kurt Busch qui perd déjà très gros. Alors certes, il lui reste le Texas et Martinsville de piste, c'est loin d'être un peintre pour se rattraper, ce qui foutrait un joli bazar au classement général.
Après,
Mais
est-ce que
c'est
ça
déjà.
change grand-chose? Il était déjà quasiment condamné à la victoire avant d'entamer la course.
Mais oui,
Je suis
mais
d'accord
regarde,
avec lui. Non.
quand tu regardes le classement général, Logano qui est qualifié est cinquième. Donc là, pour l'instant, tu vires le quatrième. Si Kurt Busch venait à gagner, tu vires le troisième. Et c'est là que c'est intéressant.
Non, mais je rejoins Lilian sur le fait que même si Kurt Busch avait fait quoi, allez, on va dire un fond de top 10, donc la place qu'il occupait avant de nous faire un joli barbecue. Donc,
Il serait resté loin.
tu gagnes,
Je suis d'accord.
là il fait 38, donc tu gagnes, si tu fais dixième, disons 28 points. Peu
Oui.
ou prou. Allez, on arrondit à 30 s'il marque des points au segment. On va bien arrondir à 30 au final. Au terme de classement, Kurt Busch, là, il a 40 points de retard sur Martin Truex Jr., qui est juste devant lui, donc 7e.
Tu n'es pas obligé de prendre
Franchement.
ton accent chantant du sud-est.
Ouais, je me suis entendu. Mais pour revenir à la qualification, il reste quand même très loin avec 30 points. Donc, pour moi.
Bien sûr, mais regarde un scénario de bookmaker de Las Vegas, Kurt Busch qui gagne au Texas, Martin Truex Jr. qui gagne à Martinsville. Bah, t'as plus que le leader du classement général qui est qualifié pour la finale, quoi. Et ça peut être très très bon.
Ah oui, je suis d'accord avec ça, mais ça n'empêche pas que bon résultat ou mauvais résultat pour Kurt Busch, il aurait toujours eu besoin d'une victoire pour se qualifier.
Bien
Et
sûr,
pour foutre le bordel, accessoirement.
mais c'est ça. Mais un Kurt Busch peut encore mettre le bazar au classement général et ça peut être très très bon. Mais cela dit, quand tu vois les performances de Kurt Busch ces derniers temps, ça reste une contre-performance majeure. Après, il est en retard au niveau des points parce que il a accumulé trop peu de points de bonus sur l'ensemble de la saison pour pouvoir espérer jouer quelque chose. Quand tu vois des Kevin Harvick, des Denny Hamlin qui ont enchaîné les victoires et les segments comme des perles, pour ne citer que.
On est
Bah, c'est là
d'accord.
qu'en fait, oui, arriver dans le top 8, c'est là quoi, comme tu dis, les nombreuses victoires, pour ceux qui en ont gagné énormément, commencent vraiment à peser, et pour moi, à trop peser.
Mais voilà, après, est-ce qu'il faut réduire, tu vois, l'impact et ne mettre que 3 points par victoire? Est-ce qu'il faut enlever ce bonus de victoire? Je ne sais pas, mais enfin, faut quand même récompenser ceux qui gagnent, ceux qui, toute la saison régulière, font autre chose que se toucher la nouille et se qualifier tranquillement pour les playoffs, ric-rac, comme certains ont pu le faire cette année. Et je ne parle pas de Cole Custer ou de Matt DiBenedetto qui n'ont pas forcément le matériel adéquat. Quoique pour Cole Custer,
Après,
c'est
Custer, il a été chercher une victoire, hein.
oui, il a été chercher une victoire et il est rookie, donc c'est une très bonne chose. Mais enfin, vous voyez qui je visais par mes propos. Alors, autre fait de la course, et là je sens que Aloïs ou Lilian ou les deux vont bondir.
Allez.
Et 50 centimes suffisent pour lancer le jukebox, je rappelle.
Ah oui, donc après Talladega, hein, il y avait eu l'arrivée polémique de Talladega dans laquelle il avait fallu sauver le petit soldat de la neuf. Retour au Kansas, problème radio pour Chase Elliott tout au long de la course. Alors, ça arrive à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on lit dans les, enfin qu'est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on écoute dans les podcasts de la NASCAR en début de semaine? Que les officiels ont, comment dire, se sont interrogés sur le fait de forcer Chase Elliott à rentrer pour réparer son problème de radio. On est d'accord avec ça, Louise?
Pour l'instant, je te suis.
Du coup, ils se sont dit, ah, on a quand même fait une erreur, on n'aurait pas dû, on aurait dû le forcer à rentrer. On l'a pas fait. Est-ce qu'on a encore cherché à protéger Chase Elliott et du coup un petit peu l'intérêt pour la dernière place qualificative?
Là encore, c'est une zone où le jugement est primordial. Je pense que la même question aurait pu se poser pour X ou Y pilote. Là, Le doute subsiste parce qu'il s'agit de Chase Elliott. Après, ceci
il est
dit,
en play-off.
Certains suiveurs se sont interrogés sur la nécessité d'avoir une radio qui fonctionne parce que tu écoutes en grande partie ton spotter. Ce qui revient sur un ovale à un mal et demi à garder une certaine sécurité pour le pilote et les autres pilotes. Mmh. D'où le questionnement de la NASCAR pour forcer ou non Chase Elliott à changer sa batterie, à changer sa radio. S'il avait été forcé, il aurait certainement dû le faire sous drapeau vert dans le pire des cas, ce qui lui aurait causé de perdre 1, 2, 3, 4 tours. On ne sait pas si ils auraient été excellents à changer cette radio, ou même s'ils arrivent à le refourguer dans un drapeau jaune, tu as de fortes chances de perdre un tour. Donc, c'est entre guillemets peut-être une fleur que la NASCAR aurait fait à Chase Elliott n'obligeant pas la numéro 9 à remplacer cette radio récalcitrante.
Lilian, tu n'as pas encore entendu sur le sujet.
Je pense que, alors pour ceux qui n'aimeraient pas Chase Elliott ou pour les détracteurs de Chase Elliott, je ne pense pas qu'il ait été avantagé, clairement, parce que ce n'est pas la première fois qu'un pilote a des soucis avec sa radio. Moi, je pense que la bonne décision a été prise de le laisser se débrouiller. Il a été chercher un bon résultat en l'état. Et c'est la première fois que j'entends la NASCAR se dire un pilote a des soucis de radio, on va l'obliger à rentrer au stand pour remettre une radio qui fonctionne. Je veux dire, j'ai envie de te dire, ce bon résultat est tout à son honneur avec les moyens du bord.
Effectivement. Je vais rajouter quelque chose. Enfin, je vais vous reposer une question, la question différemment. Est-ce que on a besoin d'une radio en sport auto? Est-ce que, dans l'idée, est-ce que la radio ne tue pas aussi le sport auto, enfin le sport en général, en aseptisant toutes les stratégies possibles et imaginables? Est-ce que, enfin, moi, l'aspect sécuritaire, je le vois pas forcément. Quand t'es dans une voiture, que t'as des rétros, que t'as la dégâts, ça peut s'entendre puisque
ça bon, ça n'empêche pas les cartons, hein, malheureusement.
Ça n'empêchera jamais les cartons. Mais est-ce que sur les autres pistes, la radio est nécessaire? Est-ce qu'on peut pas aussi rendre la main au pilote? Je sais pas qui veut se lancer.
Bon. Sacrée question que tu soulèves.
Après là, d'accord. C'est quand même soulever et renverser un pan, j'ai envie de dire historique. Ouais. De la NASCAR, parce qu'il y a toujours eu un entre guillemets spotter, quelle que soit sa forme et quelle que soit sa fonction par le passé, mais il y en a toujours eu un, quelle que soit l'époque où la NASCAR a existé et a évolué. Je vais te dire, dans n'importe quel sport auto, on a de la radio. Si tu prends la F1, bah évidemment, tu en as même à outrance là-bas.
Voilà, c'est ce que tu n'en as pas trop.
PRC, par exemple. C'est une radio différente, mais la communication entre le copilote et le pilote, bah, c'est le même système, c'est le même fonctionnement en essence.
Elle est peut-être obligatoire.
Pardon ?
Donc, elle est peut-être obligatoire quand même pour que les pilotes, enfin pour que le copilote puisse se parler avec le pilote. Donc,
oui.
Donc,
et puis, mais du coup, ça reste une radio en tant que telle et un moyen de communiquer. On est d'accord.
Ouais, et en les spots endurance. En NASCAR, c'est que depuis les années 80. Hein. Avant, les mecs, ils faisaient des signaux de fumée. Hein. T'avais pas la radio, hein. même aux États-Unis, pays archi-développé technologiquement.
Je pense que la radio, quand même, fait partie de l'aspect des sports automobiles, quels qu'ils soient. Même on parle de radio, je pense que la question que tu soulèves est à peu près identique à celle qu'il y a depuis une bonne décennie en cyclisme par rapport à l'oreillette. C'est le même fonctionnement,
c'est le même système. C'est un scandale. On l'a encore vu dimanche, mais bon.
On l'a encore vu dimanche, effectivement. Mais en NASCAR, je vois pas pourquoi il faudrait l'enlever sous prétexte que ça sert à rien. En gros, si je résume vraiment très succinctement ton résumé, ton explication.
Bah, puis après, ça permet quand même de discuter stratégie, savoir combien de pneus on va prendre dans les stands, et puis même après, voilà, les trajectoires sur la piste.
T'es peut-être tout seul à piloter la voiture, mais c'est un sport d'équipe. On met en avant les qualités des pit stops, du fait que telle équipe est meilleure que l'autre équipe. On ne parle pas uniquement un pilote contre un pilote au final. Et on le voit chaque semaine que la totalité de l'équipe fait la différence, que ce soit dans les réglages, coucou Kyle Busch, que ce soit dans la force des arrêts au stand, que ce soit le crew chief et les décisions que l'un ou l'autre peuvent prendre, etc. C'est un travail d'équipe et dans un travail d'équipe, il faut de la communication, d'où l'importance de la radio. Et je pense même la nécessité d'avoir un moyen de communication entre les instances décisionnelles, si on peut dire ainsi, entre notamment le crew chief, le spotter et le pilote.
Et après, par rapport, je rebondis aussi sur ce qu'Aloïs dit. En NASCAR, les fans peuvent se brancher sur les, enfin peuvent écouter les communications de leurs pilotes favoris. Et je pense que justement, ça pourrait enlever cette proximité que, voilà, t'es fan de tel pilote, tu veux écouter ce qui se dit pendant la course, bah t'aurais plus cette proximité que tu peux avoir actuellement, du moins.
Oui, bien sûr, mais voilà, je posais la question. Okay. Vous avez un avis différent, vous avez le
Et
droit,
alors,
il n'y a pas de souci.
en plus, j'ai même encore un autre argument qui me vient à l'esprit. On va quand même, en 2022, arriver avec des nouvelles voitures qui feront quand même un bond, on va dire, technologiquement, puisque voilà, ça va être des écrous centraux. Enfin, les voitures vont quand même être très, très différentes. Et
Oui.
ça ferait quand même un drôle, comment dire? Ça serait quand même sacrément en décalage que d'un autre côté, on enlève les radios, tu vois, par rapport aux voitures qui seront beaucoup plus modernes.
Oui, mais bon.
Après, tu vas me dire, on aurait pu, pourquoi pas, tenter ça cette année, hein. On a tenté tellement de nouvelles choses. On fait des courses, enfin, on fait des week-ends de courses qui se résument à une journée. On aurait pu tenter une course sans radio, hein.
Et
On
puis,
aurait.
si tu veux enlever la radio, Geoffroy, comment tu voudrais, à l'heure actuelle, que par exemple, le crew chief donne des informations à son pilote, sans communication de radio?
Il n'en donne pas. Et enfin, je veux dire, le pilote, il sait ce qui reste globalement en termes de carburant dans son réservoir. Et ce n'est pas le carburant depuis quelque temps qui pilote les stratégies, c'est l'usure des pneumatiques.
Et justement, l'usure des pneumatiques, comment le pilote peut faire remonter telle ou telle information pour justement adapter la stratégie. Et la stratégie, c'est régulièrement ce qui sauve l'intérêt d'une course.
Le pilote le sent.
Et c'est pas
Le pilote
les
le sent.
courses
Ils
fameuses
comprennent. Ouais,
où
mais
il n'a pas le temps.
les pneus sont analysés après le pit stop, hein. Des fois, on voit des plans sur certains trains de pneus qui ont été, enfin, de tel ou tel pilote. Des fois, on voit, il y a quand même des surprises.
Mais la communication entre le crew chief et le pilote est primordiale pour la stratégie. Et la stratégie est tout aussi importante que le pilotage du pilote et que le réglage de la voiture et que les décisions de l'un ou de l'autre. Franchement, si tu
Ouais.
enlèves cet aspect de radio et cette communication, tu enlèves une grosse partie de l'intérêt et même de l'aspect, comment dire, l'aspect spectaculaire de la stratégie.
Ben là, tu
Bah,
vois,
si, non.
Chase Elliott,
Vas-y, vas-y.
ouais. Et Chase Elliott, il n'avait pas de radio, il a réussi à faire 4, hein. Et il a réussi à communiquer avec son chef d'équipe. Il faisait ça à l'ancienne, il sortait la main par la fenêtre et puis il faisait des signes en hiéroglyphe et puis voilà. Et a priori, ils se sont compris. Donc ça fonctionne, ce genre de choses.
Je pense que si on enlèverait
Si on
la radio,
enlevait.
si on enlevait, oula, pff, si on enlevait, mais oula, je vais chercher des conjugaisons. Bon. Si on enlevait la radio, je sais pas, pour moi, ça enlèverait, tu vois, du mérite à une équipe qui réussit au crew chief. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, voilà, quand une équipe réussit, on parle souvent d'un duo entre le pilote et le crew chief. Souvent, c'est vrai que bon, quand on a eu Chad Knaus et Jimmy Johnson, on a eu Gordon avec Ray Evernham, pour ne citer que, c'est les deux
Plus
premiers.
récemment, moi, ce qui me vient en tête, c'est quand même Paul Wolff et Brad Keselowski.
Aussi, c'est
Combien
vrai.
de victoires Paul Wolff a amené sur un plateau à Keselowski? Beaucoup.
C'est vrai.
Oui, mais est-ce que du coup, c'est ça qu'on veut? Est-ce que du... Est-ce que du...
Et tu regardes, c'est ce qu'il a offert à Logano dimanche, hein, puisque sur le dernier arrêt, il ne prend que deux pneus. Ils ont privilégié la position en piste.
Ouais. Moi, je suis d'accord, moi je pense qu'on est dans le même camp avec Lyon quand même.
Non, ben, enfin, vous avez le
Mais
droit. Hein,
après,
vous...
tu vois, enfin, c'est voilà, l'idée que Geoffroy soulève, j'ai envie de te dire, mais pourquoi pas? Parce que tout à l'heure, je
Moi,
disais justement que voilà, il n'y avait pas de raison de pénaliser Chase Elliott en le faisant rentrer au stand pour mettre une radio en état de marche. J'allais dire, pourquoi pas creuser? Pourquoi pas essayer une course? Pourquoi pas?
ok, et ben, on va clore le débat sur la radio. Messieurs, je pense qu'on a encore plein de choses à dire, notamment sur l'actualité. Juste avant l'actualité, on va faire un petit point classement général. Donc, Kevin Harvick, je vous donne le classement à l'issue de la course du Kansas. Hein. Kevin Harvick qui est leader avec 4115 points, 21 points d'avance sur Hamlin, 33 points sur Keselowski, 41 sur Chase Elliott, qui est le premier éliminé. Cinquième, Joey Logano est à 51 points, mais est qualifié grâce à sa victoire. Alex Bowman à 60 points, Truex à 64 et Kurt Busch à 106, alors qu'il ne reste que le Texas et Martinsville pour accéder à la finale. Il reste deux demi-finales, messieurs. Un ovale d'un mile et demi, donc, et une course qui fera 500 miles, et une course de sur short track de 500 tours. Voilà qui promet avec quand même des pilotes dans l'ensemble qui peuvent gagner sur les deux pistes. Hein. Bon, de toute façon, quand on arrive dans les 8, c'est qu'en général, on est plutôt bon. Mais tous ont quand même récemment gagné sur ce genre de piste. Donc, ça peut promettre pour les deux prochaines courses une lutte assez féroce qui pourra être arbitrée par des Kyle Busch, Austin Dillon et consorts, s'ils n'ont pas des petits problèmes de stratégie, de pneumatique, de mur, qu'est-ce que j'aurais oublié? S'ils ont pu faire des essais avant, tout ça, quoi. Donc, on sait que ce sera pas Kyle Busch, en fait.
Oh.
J'y ai pensé, j'ai pas osé.
Ah bah oui, je t'ai entendu, donc en fait, j'ai enchaîné, quoi. Alors, messieurs, on va passer à l'actualité, puisqu'il y a plein de choses à dire sur l'actualité aussi. On a eu deux, trois transferts qui ont été officiels en début de semaine avec donc la retraite de Clint Bowyer, c'était acté, Lilian, depuis la semaine dernière.
Il me semble, ouais. Et son
On
départ
sait
pour NBC Fox, pardon.
qu'il va chez Fox. Du coup, c'est Chase Briscoe qui monte en Cup. Lui qui pilote dans la numéro 98 en Xfinity cette année et qui fait des prouesses semaine après semaine.
9e victoire samedi.
C'est ça, et je crois que c'est la troisième fois depuis le début des... Non, la quatrième fois lors des cinq dernières courses qui remporte les deux premiers segments.
Ah, c'est une sacrée stat.
Et oui, c'est dire s'il a le fameux momentum, comme ils disent aux États-Unis. Donc,
Et c'est très bien qu'on voit un peu moins les Kyle Busch, Joey Logano et Brad Keselowski en Xfinity parce que ça permet justement de voir émerger ces jeunes talents.
c'est ça. Et de toute façon, ils n'ont plus le droit de faire les playoffs et la finale de la saison régulière depuis des années. Et ils sont limités à, je crois, c'est cinq courses sur le reste de la saison régulière, du coup. Et ils n'ont même pas le droit de participer au Dash for Cash. Donc, en gros, ils ont cinq courses sur... C'est combien la saison régulière en Xfinity?
On doit être
C'est
aux alentours de 30.
23, donc c'est 26, 26, moins 1, 25 et moins 4, 21. Donc voilà, ils ont plus que 5 courses à faire sur 21. Ce qui limite un petit peu leur présence. Du coup, Chase Briscoe qui monte en Xfinity, en Cup, pardon, est-ce que c'est pas une année trop tôt, vu qu'il va faire une saison dans une voiture et en 2022, comme on l'a déjà dit, on passe à une nouvelle génération de voitures, donc il faudra une fois encore se réadapter. Est-ce que c'est pas trop tôt ou au contraire, est-ce que ça fait du bien de pouvoir aller bastonner avec des Kyle Busch, des Logano et compagnie tout de suite?
Pas de l'expérience, ça reste de l'expérience au final. Ce ne sera pas perdu dans un trou noir au moment de changer de voiture en cup. C'est pas ça qui m'inquiète plus que ça. Et comme tu dis, bastonner avec les meilleurs du championnat, ce n'est que positif. On l'a vu cette année, par exemple, avec un Christophe Arbel qui a sorti des belles performances alors qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Je pense également à un Cole Custer qui nous a bien surpris. Tyler Reddick, on l'attendait quand même à ce niveau, donc c'est pas une grosse surprise. Mais je pense que ça ne peut être que bénéfique pour Chase Briscoe. Peut-être une année trop tôt, effectivement, mais pas par rapport à la voiture, mais plutôt par rapport à son, comment dire, à son temps passé en Xfinity et à son expérience globale. Parce qu'au final, il a passé que 2 saisons à temps complet en Xfinity, ce qui n'est pas forcément immense non plus.
Après, je pense que c'est aussi un lien de cause à effet parce que le contrat de Clint Bowyer arrivait à son terme et il n'a pas été renouvelé. Il y avait un bac à pourvoir et comme il excelle dans la deuxième division, voilà, l'opportunité s'est présentée, les sponsors ont suivi. J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a des pilotes qui sont restés plus longtemps en Xfinity, ils sont montés en Cup en ayant gagné, en ayant eu des titres. Et bon, derrière, malheureusement, tu regardes Suarez, tu regardes Stenhouse, ça, voilà, ça n'a pas marché plus que ça, voire pas du tout.
Et donc du coup, pour prendre la suite de Chase Briscoe en Xfinity, ça va faire plaisir à Loïs. On parle de Riley Herbst, le pilote de la Gibbs.
Ah, du coup,
Ah, il partirait chez Ford.
ouais, il se ferait voler par la Stewart Haas.
A priori.
Ouh, c'est quelle bouche qui va être content?
Bah oui. Alors,
Ce qui,
autre.
je voudrais juste ajouter sur la page Xfinity, c'est que quand même, c'est Austin Cindric qui doit l'avoir mal. Parce
Aïe,
que c'est une année complète supplémentaire qu'il a passée en Xfinity, toujours pas de titre. Et pour l'instant, cette année, c'est en ballottage. On verra ce qu'il advient de la fin du championnat. Mais il faudra encore qu'il passe une 4e année en Xfinity à temps complet avant de passer dans l'écurie mère Penske en Cup. Alors que Chase Briscoe, lui, il sera déjà passé une année auparavant.
Je suis d'accord. Mais bon,
C'est ce que je te dis, hein,
c'est.
c'est une histoire d'opportunité. Chase Briscoe avec la Stewart Haas, il l'a eu. Chez Penske, bah, Cindric, il l'aura, mais en 2022 seulement.
Alors, autre transfert, on va un petit peu avancer quand même. Ça concerne cette fois-ci du Chevrolet. C'est Eric Jones. Eric Jones qui signe chez Richard Petit Motorsports dans la 43. Il va ainsi prendre la suite de Bubba Wallace qui lui est parti chez Denny Hamlin, Michael Jordan, nom de l'écurie pas connu Racing.
Au motorsport, ça.
Ou Motorsports. Ça vous inspire quelque chose, Eric Jones à la Richard Petit Motorsports? Non. Ok,
Bon,
merci.
ouais. Est-ce que
Voilà.
ça va marcher? Je pense que ce sera du même niveau qu'un Darrell Wallace. Ça fera quelques bonnes perfs à l'occasion, mais ça n'ira pas en playoff.
Ah, je
Et ça
pense que
ne gagnera pas, clairement.
c'est quand même une bonne nouvelle pour la Richard Petit Motorsports qui peut continuer à remonter doucement la pente. Il a un mouvement qui a été initié par Darrell Wallace Junior depuis quelques saisons. Là, Eric Jones, il est pas mauvais, hein, il part peut-être de la Gibbs, mais il est loin d'être mauvais. Vu sa fin de saison, c'est quand même assez prometteur. On sait qu'il a le niveau pour jouer avec les meilleurs en Cup. Donc, il a de l'expérience. Au final, il commence à avoir un peu de bouteille. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la RPM aussi pour continuer à construire sur le regain de forme initié par Bubba Wallace.
Yes. Donc, du coup, Eric Jones chez Bubba Wallace. Désolé, je cherchais mes mots.
Non, chez RPM, pas chez Bubba Wallace.
Oui,
T'as dit
pardon.
Eric Jones chez Bubba Wallace, pourquoi
Ah,
pas?
et ils vont faire une colocation.
Bah,
Ouais. Son pote aussi et qui part souvent en vacances ensemble. Hein, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Je m'étais déjà projeté sur les vacances des pilotes au mois de décembre.
y a pas que moi qui dis que des conneries, ça va.
Je ne sais pas où. Bah oui, non, mais ça on le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est reconnu. Il reste un volant à pourvoir, du
Il
coup.
en reste plus qu'un, ça y est.
Alain Hendrick,
Aïe, aïe, aïe.
dans l'ancienne 88 qui devrait devenir la 5. Et bizarrement, qu'avons-nous appris, messieurs,
pas plus tard qu'en
2016, plus tard que lundi, Kyle Larson, ça y est, a reçu l'autorisation de la NASCAR pour pouvoir repiloter dans l'une ou l'autre des disciplines, de l'une des catégories, à partir du 1er janvier 2021. Dis donc, quelle surprise!
Ouais, ça commence quand même à sentir très très bon pour Kyle Larson chez Hendrick.
Le puzzle se construit très doucement, mais sûrement.
Et autre bonne nouvelle, hein, disons que c'est pareil, c'est le revirement de situation est très joli. Chevrolet soutient le retour de Kyle Larson, dis donc. Soutient la NASCAR dans le retour de Kyle Larson.
C'est pas comme si l'écurie principale en NASCAR était la Hendrick pour Chevrolet.
Ah bon. Oh là là. Je suis tellement surpris.
C'est vraiment le hasard fait bien les choses tout de même.
Oh là là, franchement, faudra avoir plus de coups de chance comme ça.
Hein. C'est bizarre, mais Toyota et Ford n'en ont rien à cirer. Et Chevrolet est valide, c'est bien.
C'est ça.
Et franchement, on pourrait pas faire une campagne promotionnelle plus transparente que celle-là. On voit tout. On peut les voir venir à 30 km à la ronde. Là, on sait très bien ce qui se passe. Toutes les petites campagnes s'alignent les unes après les autres. Franchement,
les planètes, les campagnes.
On pourra faire notre tête de surpris d'ici quelques semaines quand Kyle Larson sera annoncé à la Hendrick.
Ah, celui qui a fait le plan de com, il est vraiment bon. Hein.
Ah ouais, franchement, chapeau. Hein.
Et en fait, la semaine prochaine, on apprend que dans la numéro 5 de la Hendrick, c'est un pilote de développement de la GR Motorsport. Et là, on est marron.
c'est Noah Gragson qui monte en cup.
ça serait très, très drôle. Mais bon, honnêtement...
Rien ne dit que Noah Gragson justement monte en cup et Kyle Larson se voit refouler en
X-Ray. La blague.
Oh, alors là, putain, alors là.
Mais il n'y a rien qui en
vocabulaire,
fait ça,
mais...
La blague, quoi. Mais la grosse blague. Non, faut pas déconner non plus. Enfin, voilà. Le retour de Kyle Larson se précise chaque jour un tout petit peu plus.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a des petites miettes au jour le jour.
La semaine dernière.
C'est comme un brouillard anglais. Il se lève petit à petit jusqu'à ce que le soleil se couche.
À tous nos amis anglais, bonjour. Mais oui, il y a une semaine, il avait deux pieds, il avait deux orteils en cup à la Hendrick. En fin de semaine, il en avait déjà trois ou quatre. Lundi, il y en avait cinq. Et aujourd'hui. Il y a un pied et trois orteils, faut pas se leurrer. Ça avance petit à petit.
Je pense que le baquet est déjà moulé, quoi.
Je pense que le siège, c'est ça. On a déjà pris les mensurations du bonhomme. La combinaison, elle est faite. Les sponsors, ils sont signés. Donc, après, quand est-ce que ça va être annoncé? Est-ce que ça va être fait du côté de Martinsville, qui est un lieu emblématique de la Hendrick aussi, qui est le lieu de la première victoire de la Hendrick avec Geoff Bodine à l'époque, je crois que c'était encore la All-Star Racing, et c'était le numéro 5. Ça pourrait aussi, au niveau des planètes, en termes de communication, ça pourrait bien tomber. Est-ce qu'on va attendre la fin de saison, sachant que le banquet de Nashville est annulé, pour communiquer? Une chose est sûre, on ne va pas attendre le 1er janvier. Ça, c'est certain.
De toute manière, il y a deux options qui s'offrent à la Hendrick, hein, parce que honnêtement, plus aucun doute ne subsiste. Soit ils font un joli news dump au lendemain de la finale pour que ça passe totalement à travers et qu'il n'y ait aucun backlash sur l'annonce du retour de la Ronan Cup. Soit ils nous font une Edwards, genre ils attendent une à deux semaines après la finale et hop, juste après que la vague du champion soit passée, on rentre en jeu et on peut lancer la nouvelle ère, entre guillemets, de la Hendrick après la retraite de Johnson également.
Honnêtement, sachant que Johnson est aux fraises au classement, sachant que, en gros, il ne reste que chez Elliott pour pouvoir être titré s'il parvient à rentrer dans le Final Four. Honnêtement, je pense que l'annonce, elle tombe avant la fin de ce tour.
Ah,
De toute
bah,
façon,
moi je dis après la saison.
toute manière, enfin, tu parlais justement de voilà, que ça fasse très peu, que la news fasse très peu de vagues.
Non,
Enfin,
pas.
je pense que vu les remous que ça a fait aux États-Unis, vu les raisons de son licenciement de chez Ganassi et son comment, et puis même son interdiction de courir par la NASCAR, je pense que dans tous les cas, ça fera énormément parler parce que
C'est
ce
ça.
sera quand même un sacré comeback pour Kyle Larson, alors qu'il a quand même été, je vais pas dire au fond du trou parce qu'il a continué à rouler en sprint car, mais bon. Il a quand même été évincé, ouais, une très bonne partie de l'année, quoi. Ça, c'est
Ben,
clair.
moi, je dis, là, la boîte de com a orchestré une campagne magistrale et je dis que à la veille de l'annonce, il y a une casserole qui ressorte. Et là, on peut vraiment très bien rigoler.
Non, mais toi, tu vois le mal partout, quoi. Tu vois le mal partout, c'est juste pas possible. T'es pire que moi.
Mais non, mais
Je dis juste toutes les possibilités.
c'est assez drôle parce qu'Aloïs a quand même un, je vais dire un petit faible pour Kyle Larson depuis plusieurs saisons. Et ouais, on dirait que Kyle Larson à la Hendrick, ça le botte, mais pas du tout, quoi.
En vrai, ça me botte pas du tout. J'ai jamais géré la Hendrick, franchement.
Ça aussi, c'est une sacrée news.
Ah non, ça a jamais été ma tasse de thé.
Ça fait des années que je dis qu'il doit aller là pour être champion, je le répète. Et ouais,
C'est
toi,
vrai.
depuis que tu sais que c'est. Bah, t'as bien compris que ça allait se faire. Et ouais, toi, je te sens bien. Bon, t'es un peu blasé, quoi.
Bah, honnêtement, la Hendrick, ouais, merci. Tu peux pas faire plus aseptisé hein, que la Hendrick. Hein.
Oh, si, si,
Je me
si.
dis pas le contraire. Hein.
Non,
Si.
non, non, si, si, t'as raison.
C'est pas fun.
La RCR, c'est pas fun. La rush, c'est pas fun.
La RCR, c'est pas fun, mais tout dépend de ta classe politique.
Ouais,
Je dis ça, je dis rien.
enfin bon, ils sont avec les chapeaux, tu sais de quel côté ils sont, hein.
Mais oui, justement.
Si tout ça, c'est pas républicain, je comprends
Non, bah, t'as vu la gueule du padré Childress?
pas, hein.
Il faut pas être américain pour comprendre pour qui il vote, hein.
Oui, excuse-moi, mais la rush, ça n'a jamais été fun non plus. La Gibbs.
Oh, si, c'était fan la Rush quand on se foutait de leur gueule toutes les semaines parce qu'ils faisaient de la merde. C'était fan!
Je n'ai pas dit ça. Mais en termes de, non, non, mais en termes de communication de policier, enfin.
Oui.
Excuse-moi, la rush, tu as quand même eu Mark Martin qui disait jamais un mot plus haut que l'autre. Matt Kenseth, il parlait d'une voix tellement monocorde que. Et il mettait tellement des casquettes que quand il enlevait sa casquette, tu le reconnaissais pas.
Oh, après, t'avais quand même Carl Edwards et Greg Biffle qui sortaient de trois marrons de temps en temps.
Oh, t'avais Kurt Busch aussi.
Ouais, enfin, vite fait, c'était avec les autres. Hein. C'était souvent parce que Kevin Harvick venait les faire chier.
Un peu comme Logano aujourd'hui, au final, hein.
C'est ça. Mais bon, enfin, de toute façon, t'es dans une ère aussi tellement. Et là, on est encore parti en train de diverger, mais c'est pas grave. On est tellement dans une ère médiatique et politiquement correcte qu'il n'y a aucune écurie où c'est fun, entre guillemets, Valouis.
Oh, s'il te plaît, quand Dale Earnhardt Jr. s'est fait comment dire, pénaliser avec des points pour avoir dit le mot merde à la télé, s'il te plaît, tu parles de communication, mais c'est quand même un peu plus relax aujourd'hui, hein.
Oui, mais c'était à l'époque où il était encore chez DEI de mémoire.
Ah oui, c'était la
Il est
belle lurette,
arrivé.
c'est clair.
C'était à Talladega, hein.
Il avait
Je
dit
crois
quoi?
que
Il avait
c'est.
dit par
Il
shit.
avait dit caca de taureau.
Ah oui, bullshit. C'est ce qu'il avait dit,
Voilà.
ouais.
Je crois que c'était au terme de sa cinquième victoire à Talladega, donc ça devait être en 2007. Si... Non, 2007, c'est pas possible, c'est Gordon. Donc ça devait être 2006. Ouais, bref, 2005.
Ah, c'est quand Jeremy Mayfield était encore boulanger? Oui, c'est ça.
Boulanger.
Quand il allait chercher la levure, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Ami de la référence, bonsoir.
Donc oui, mais ça, comment? Il y a de temps en temps, il faut frapper un petit peu sur un pilote populaire histoire de faire causer dans les chaumières. Mais
Et
globalement,
on le
c'est quand
voit
même
très
très
bien.
très assisté.
On le voit très bien cette semaine, on n'en a pas parlé, mais la mini-rivalité entre Joey Logano et Kevin Harvick à la suite du Kansas, pour revenir un petit peu plus dans l'actualité, quand Harvick dit que Joey Logano est un excellent bloqueur,
Ah, ça c'était génial, c'était
très très
génial.
court.
C'est la vérité, hein.
C'est la vérité. Mais justement, on sent que Kevin Harvick, il peut pas encadrer Logano, et Logano, il en joue totalement. Et au final, c'est plutôt médiatiquement, c'est comme ça que les pilotes et la NASCAR dans son ensemble vit à travers les médias aujourd'hui. C'est dans ces petites phrases, ces petites piques, ces petites rivalités à demi cachées.
Ouais, bah oui, ils en jouent comme ils peuvent, hein.
Ah oui, ils en jouent. Mais enfin, Kevin Harvick et Logano, pour terminer là-dessus, c'est quand même quatre étages en dessous de ne serait-ce que Logano Kenseth. Souvenez-vous, il y a 5 ans.
Bah, même Logano Kyle Busch quand même.
Oui, Logano Kyle Busch, tu peux aller en chercher plein d'autres. Enfin, il s'est rien passé, il se passera rien.
Bah, c'était le
Parce que...
bon temps avec Carl Edwards, là où il se foutait vraiment limite à l'hôpital.
Tout de suite, tout de suite. Mais non, mais globalement, tu es rentré dans une ère beaucoup plus politisée, beaucoup plus médiatique, et où tu fais énormément attention à tout ce que tu fais.
Bah, il y a les sponsors derrière, c'est toujours pareil, hein.
Bah,
Et les
exemple
pilotes
type.
n'arrivent plus, comment, avec la veste, enfin, ou avec la chemise, comment, des cutéreux de l'Alabama, la clope au bec, et la bouteille de Bourbon à la main, quoi.
Mais tout ce que vous disiez, de ce que vous dites, oui, ça c'est la fin de l'émission, ça
On
devient
a
un
du
peu
mal,
plus
hein. Faut
dur.
qu'on en achète notre Becherel, hein, après l'émission.
Voilà, c'est mais par rapport à toutes ces, il n'y a plus d'erreurs de communication tolérées à l'heure actuelle, bah, Kyle Larson, exemple parfait. Il a fait une petite, enfin, une incartade.
Ouais. Oui,
Il y
c'est
a
ça.
un
Il
mot,
ouais, mais il a prononcé un
y
des
a
deux
un
mots qu'il
mot
fallait
qui
pas
allait plus
prononcer aux
loin que l'autre.
États-Unis aussi.
C'est ça. Il a fait une belle incartade au pays des puritains.
Oui. Mais du coup, ça montre qu'au final, il n'y a plus le droit à l'erreur d'un point de vue médiatique. Il a fait une erreur et bim, il a fini sous la guillotine.
Ouais, enfin, t'as plus le droit à l'erreur, tu vas te racheter une virginité et ça passe, quoi.
Ouais, oui, voilà, c'est ça.
Oui, on est
Bon,
d'accord.
oui.
Mais il a quand même perdu gros sur cette histoire.
Il
Et
a fait...
ça montre que y a beaucoup plus de répercussions que ce soit en termes de sponsors. Que ce soit en termes même de poste dans une écurie.
Honnêtement, il fallait que le mariage avec la Hendrick se fasse. Ça commençait à être avancé, si tu veux. On s'est dit, bon, allez, on le met au frigo pour 6 mois. Et puis basta, quoi. Et en fait, il a peut-être gagné au change dans le sens où, alors oui, il va être hyper attendu à la Hendrick, mais là, il s'est évité une année de galère à la Ganassi où il aurait été en playoff, mais il aurait jamais pu être champion. Il aurait peut-être gagné une course, ça et là. Alors, je dis pas que c'est fait volontairement et tout, mais il s'est sûrement évité une année compliquée et une transition compliquée de la Ganassi à la Hendrick.
Justement, théorie du complot. Est-ce que Kyle Larson aurait fait exprès d'utiliser le mot qu'il a
Non.
utilisé pour quitter la Ganassi et rejoindre discretos la Hendrick Motorsport?
Oh, là,
Non,
ça commence à faire
non, là, je
loin,
peux
là.
pas le croire. Non, là, je peux pas croire. Là, je peux pas cautionner ce genre de truc. Honnêtement, non.
Aller aussi loin, ouais, ça fait beaucoup.
Et rien ne me surprend plus chez les États-Unis, aux États-Unis.
C'est vrai. Bon, bah, écoute, comme de toute façon, il y aura une casserole la veille qui signe. On verra, mais non, honnêtement,
Bon,
je peux pas
on reste en contact avec Bob Pokras, il aura bien les infos.
croire. C'est ça. Bon, sur ce, messieurs, on arrête réellement. On se donne rendez-vous ce week-end pour les 3 courses du Texas. La Xfinity le samedi, la Truck et la Cup
Ouais, pour
le
les
dimanche.
infos, elle est sur le site, hein. Allez hop, on balaye.
Les horaires ont été donnés sur le site. Le départ de la course est à 20h30, heure française.
Profitez-en, vous avez les horaires d'IndyCar en début de semaine. Tous
On verra.
exceptionnels, précisons-le. Donc profitez-en, allez sur le site pour voir tous les horaires, même d'IndyCar.
On parlait de communication. Pour une fois, l'Indycar a communiqué.
Mais c'est ça. Bah attends, on n'a pas encore la liste des engagés.
Ah merde.
Et c'est là ils oublient de mettre Dixon dedans. Oups.
Et je te rappelle quand même que sur les 5 dernières années, il y a au moins eu 4 fois où ils n'ont pas fait le résumé de la finale sur le média. Voilà. Bon, bref, sur ce, je pense qu'on a suffisamment divergé pour atteindre pratiquement 1 heure d'émission. On va s'arrêter là-dessus, mais si on se donne rendez-vous ce week-end pour suivre les courses, la semaine prochaine pour débriefer tout ce bazar. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez encore apprécié ce podcast et la partie actu, qui était, je pense, la plus intéressante. Et ben, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.
Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous et évidemment, bonne finale à Saint-Pétersbourg.